Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Anne-Sophie Saint-Père, militante associative, Daniel Riolo, journaliste RMC, et Thierry Moreau, journaliste média. Dans un instant, on va parler de ce qui vous attend, peut-être dans les heures qui viennent, si vous avez la chance d'être en week-end pour ce long week-end de l'Ascension. 5 jours, rien que ça, et vous allez être nombreux sur les routes. Et on vous pose la question, faut-il partir à tout prix pour être heureux? Vous nous appelez au 3216. À 14h30, ce sera RMC s'engage avec vous. À 14h40, les immanquables. On parlera de quoi notamment, Alfred?
On parlera notamment du tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet qui a été tagué hier soir au centre Pompidou, Metz.
Et puis à 14h30, je me suis trompé, hein, ce sera RMC s'engage avec vous, c'est à l'instant, ce sera RMC Conso. Et on parlera notamment de légumes.
Ah ça alors?
Ah bah oui. Légumes en conserve, légumes frais ou légumes vous trouvez dans le supermarché ou surgelés. C'est quoi les meilleurs rapports qualité-prix. Et puis oui. Je tenais à vous remercier. Les podcasts d'Estelle Midi ont été téléchargés 732 000 fois le mois dernier. C'est une hausse de 19% sur un an. RMC, première radio privée sur les podcasts. On est très fiers et c'est grâce à vous. On vous remercie sur notre plateforme. Vous pouvez également retrouver Tu préfères, notre podcast quotidien et exclusif avec tous les chroniqueurs d'Estelle Midi. N'hésitez pas à vous y rendre et merci encore.
RMC Estelle Midi.
Ça c'est Thierry au volant de sa voiture. Les couleurs du jour. Rouge pour la première couleur sur les routes et or.
Dès aujourd'hui, c'est demain le grand pont, le viaduc.
Pose-toi les bonnes questions.
Veux bien me les poser.
C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs et l'autre couleur c'est or. Or pour les professionnels du tourisme, évidemment. Alfred, les Français seront très nombreux à partir à l'occasion de ce long, très long week-end de l'Ascension.
Oui, dans un sondage Ipsos publié le week-end dernier, 84% des Français interrogés affirment effectivement avoir besoin de partir en vacances. 38% d'entre eux, c'est plus d'un tiers d'entre eux, Rémi précise qu'il s'agit même d'un besoin urgent. Alors pour se le permettre, près de 8 Français sur 10 font des arbitrages financiers. Pour pouvoir partir, ils se privent en priorité d'achat de vêtements, de produits de beauté et font les courses dans les enseignes de hard discount. Partir coûte que coûte, mais partir quand même, d'après ce sondage Ipsos, 75% des sondés disent partir moins loin qu'avant et moins longtemps, mais pour rien au monde, il ferait une croix sur ces moments de détente.
Au week-end de l'Ascension, faut-il partir à tout prix pour être heureux? Vous nous appelez au 3216. Daniel?
Je crois que je suis dans la majorité. J'ai toujours, autant que je me souvienne, aimé partir. J'ai toujours eu besoin de partir. Peu importe les moments de ma vie et les moyens que j'ai eu dans ma vie, même quand c'était peu, je partais moins, mais il fallait que je parte, changer d'air, aller vers le soleil, pouvoir me reposer, glander ailleurs que là où je vis dans mon quotidien, voir autre chose, voir d'autres personnes. J'ai toujours aimé ça, mais pas seul. Faut que je parte avec les miens, avec ma famille.
Ah oui, seul, c'est compliqué.
Il y a des gens qui adorent partir.
Ouais, je sais, mais
des gens qui adorent décompresser tout seul, partir. Ça, c'est pas moi. Mais effectivement, partir, c'est, et j'ai toujours adoré la chanson de Julien Clerc, Partir.
Tiens, on va te la trouver. Je la mettrai tout à l'heure pour toi. Mais est-ce que tu dirais que c'est une priorité pour toi?
Oui, vraiment.
Très bien.
Oui, je les chiffres qu'on a donnés, être capable de rogner sur d'autres domaines pour pouvoir partir. Oui, et pas toujours forcément. Alors évidemment, les gens qui ont plus de moyens magnifique voyage, vont rêver des Caraïbes.
Mais c'est important ce que tu as dit au départ, parce que même à l'époque où tu avais moins de moyens, ça peut être c'est une question d'âge, de composition de la famille, etc.
Absolument. Mais quand ça peut être jeune, partir moins de moyens, ça peut être deux jours en week-end,
en camping.
Quand t'es à Paris, les deux jours où on va dire là où c'est le plus près. Globalement, ça va être la côte normande si t'as envie de voir la mer, ou la campagne, tu descends un peu Morvan,
mais partir 2-3 jours.
Mais pouvoir profiter, changer d'air, soit la campagne, soit la mer. Bon, moi j'adore la mer, mais d'autres adorent se ressourcer et aller à la campagne, se reposer sur une chaise longue, pourquoi pas.
Tu vois, c'est pour toi, Daniel.
Mais les paroles sont intéressantes.
Même loin de la région.
On parle d'autre chose. Anne-Sophie, est-ce que pour toi c'est une priorité?
Alors,
le fait de partir. en vacances.
Ouais, moi je vais faire partie. Enfin, je pars trop peu en vacances et mais clairement dans mes postes de dépenses, c'est. Enfin, après le truc c'est que moi j'achète assez peu de choses, j'achète pas beaucoup de vêtements, etc. Donc clairement, j'ai besoin de partir et ensuite je pars pas forcément très loin, très cher. Donc voilà, mais enfin je vis dans un petit appart à Paris où en plus souvent je travaille. Donc si je veux vraiment faire un break, bah, je prends un train et je vais ailleurs.
Daniel, j'ai demandé Thierry, pardon.
Bah contrairement à mes deux petits camarades, c'est plutôt un peu sur lequel je ferai des arbitrages moi personnellement, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc en fait,
ça change
le
tout. Cadre de vie est déjà
ça change
reposant
tout.
Là où
le soir quand je rentre chez moi, j'ai déjà un peu l'impression d'être en vacances.
Tu me fais penser à mes parents quand j'étais, parce qu'on est parti quelques fois en vacances.
Je savais que j'étais vieux, mais
non mais ta réflexion, Thierry, ta réflexion, mais c'est vrai que quand on a eu une maison avec un jardin, j'entendais mon père me disait ben on a un jardin, on a une maison,
c'est ça. Moi quand j'étais gamin, on a habité en HLM avec mes parents. Le jour où ils ont fait construire une maison et qu'on a eu un jardin, ça a absolument tout changé, ce qui nous a empêché de partir en vacances. Donc moi c'est plutôt là-dessus que je ferai des arbitrages. Après, vous parliez tout à l'heure, pour les gens qui nous écoutent, de longs week-ends. En fait, ce sont des courtes vacances, c'est-à-dire que ces ponts permettent justement, les jours sont en train de rallonger, il commence à faire un peu plus beau et donc un peu plus chaud. On peut partir quelques jours sans aller très loin et donc on peut se changer les idées. Donc moi je comprends qu'une majorité de gens, j'ai vu que en 2002, les dernières statistiques en 2021, c'était 39% des gens qui partaient justement au moment des ponts de l'Ascension, et du mois de mai. Je comprends ça, on sort d'une période où les jours étaient courts, il pleuvait, etc. Ouais. C'est les premières
fois
où...
tu ne partirais pas à tout prix.
Non.
C'est ça.
Perso, non, pas à tout prix. Voilà.
Le week-end de l'Ascension, faut-il partir à tout prix pour être heureux? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Robert. C'est ça, Robert?
Bonjour, Robert.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Robert, je vois où vous habitez. Vous êtes toute l'année en vacances. Pourquoi vous nous appelez? Vous habitez Beaufort en Savoie.
Oui, je suis actuellement dans une station de ski.
Que je connais bien. Et c'est très, très belle région. Et puis Beaufort, c'est très, 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 très joli. Robert, vous faites quoi dans la vie?
Alors, je suis agent de voyage.
Il croque.
Voilà.
Bon, je vous pose quand même la question. Week-end de l'Ascension, et puis en plus généralement, est-ce qu'il faut partir à tout prix pour être heureux?
Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas partir, évidemment. Là, je suis avec un groupe de 16 clients. Nous sommes partis déjà il y a une dizaine de jours. Nous avons traversé une partie du Péloponnèse en Grèce et nous sommes rentrés hier en Albanie. Voilà, et encore
magnifique.
Pour une semaine.
Et vous êtes en Albanie là en ce moment même? Vous nous appelez de...
Absolument, je suis entre Girokastër et Berat, exactement.
D'accord, oui, je vois, tout à fait. Mais Robert, je plaisante évidemment. On connaît mal, mais c'est vrai que c'est des destinations.
Nouvelle tendance, l'Albanie.
L'Albanie, c'est absolument extraordinaire. La ville de Girokastër, c'est un petit bijou ottoman. Personne ne connaît. Et c'est vraiment une très très belle ville. En plus, on a un temps, vous voyez, depuis qu'on est parti, on a eu 2 heures de pluie depuis une dizaine de jours. Et là, actuellement, il y a 27-28 degrés. On a le soleil.
Robert, le type de clientèle que vous avez, c'est quel type de clientèle? Plutôt aisée, plutôt ou pas?
Oui. Je ne vais pas vous raconter d'histoire.
D'accord.
Je confirme que c'est une clientèle plutôt aisée. On va dire que 70 à 80% de mes clients qui sont avec moi aujourd'hui sont des artisans, des chefs d'entreprise. Voilà. Plutôt, j'ai un jeune qui est agriculteur d'ailleurs, qui est céréalier, qui a une trentaine d'années, qui est avec moi, mais la plupart sont en retraite.
D'accord. Et est-ce que vous comprenez, enfin vous-même, ce besoin qu'ont les Français? C'est ce que nous disent les chiffres. Voilà, il y a une inflation, il y a la hausse des prix, etc. Malgré tout, les sondages nous disent que les Français, où qu'ils partent, vous parliez d'une clientèle assez aisée, mais que ce soit à l'étranger ou même en France, pas loin, en camping, peu importe. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce besoin qui paraît, j'ose le dire le mot, quasiment essentiel que de partir?
Oui, mais là, ils me le disent, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin même de quitter la France pour voir autre chose, pour voir comment, d'ailleurs, les clients là ne sont jamais venus en Albanie, et ils me disent, mais c'est absolument extraordinaire, on connaissait pas ce pays, mais ça nous fait du bien de sortir de la France.
Merci Robert d'avoir été avec nous. Vous rentrez quand en France?
Oh, je rentre dimanche prochain, voilà.
D'accord, bon, bah, vous avez encore de belles journées devant vous pour profiter. Merci beaucoup, Robert, de nous avoir appelé au 32-16. Et après, Robert, c'est Erwan qui nous rejoint. Bonjour, Erwan.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes du côté de Lyon, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je suis chaudronnier, j'ai 25 ans.
Chaudronnier.
Chaudronnier, très bien. Mais jeune, 25 ans. Erwan, je vous pose la question, le week-end de l'Ascension et les vacances en général, est-ce qu'il faut partir à tout prix pour être heureux?
Non, moi je pense absolument pas. Enfin, en tout cas, pour donner mon exemple personnel, ça fait une quinzaine d'années que je suis pas parti en vacances. Donc, plus jeune plutôt, parce que mes parents avaient pas forcément les moyens. Mmh. Et puis à partir du moment où j'étais adulte, en fait, je suis passionné de beaucoup de choses qui me sont facilement accessibles depuis là où j'habite. Je suis passionné par mon métier, donc en plus j'ai la chance là depuis, ça fait 2 ans que j'avais consacré un peu tout mon temps à ça, et puis depuis janvier je me suis lancé à mon compte.
Ah oui.
Puis je suis à fond là-dedans, puis surtout très heureux, donc je ressens pas forcément le besoin d'absolument souffler.
Et dans votre entourage, parce que j'imagine quand vous avez des copains de votre âge à peu près, ouais. Quand vous aviez 18, 19 ans, 20 ans, enfin on a envie de partir, on a envie de découvrir, on a envie de bouger. Vous avez jamais été incité à ça?
Moi, j'ai des envies de bouger, mais c'est plutôt, on va dire, enfin, ce serait plutôt du voyage très onéreux. Moi, je suis passionné j'aime beaucoup tout ce qui est les volcans, etc. Mm. Donc, je rêverais de.
Ah, bah, en Auvergne, c'est pas loin.
De voir un volcan actif, même.
Aller voir l'Etna, c'est extraordinaire. J'allais le dire, Daniel peut vous conseiller.
Pas excessif en termes de tarifs, hein, en termes de trajet d'avion, et vous montez à l'Etna, c'est extraordinaire.
Mais en tout cas, on va dire les vacances classiques de beaucoup de gens, et non que je ne dénigre pas, hein, mais la semaine au camping, etc., ne me fait absolument pas rêver.
C'est pas partir à tout prix, quoi.
Je suis passionné de moto et de pêche, j'ai beaucoup de coins à côté de chez moi.
Oui, mais d'une façon ou d'une autre, vous vous évadez, votre cadre de vie vous permet de faire des pauses. C'est ça la vraie question.
Pour moi, c'est un autre problème, c'est que tous ces gens qui ont absolument besoin de souffler à chaque vacances, le problème est peut-être ailleurs, du sens où il y a quelque chose au quotidien qui peut-être...
Mais bien sûr.
Parce que moi, personnellement, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir dire maintenant depuis un petit moment que j'adore ma vie et que tout se passe bien.
Mmh. C'est chouette d'entendre Erwan, 25 ans, qui nous parle comme ça, de passionné par son métier, chaudronnier.
Il a un cadre de vie, Thierry. Il a une maison avec un grand jardin. Mmh. Il est bien à l'aise là-bas. Quand il rentre, il est déjà dans le repos. Mmh. Et puis, nous, quand on vit dans des appartements, la chanson auquel je faisais référence, elle dit, il y a des paroles qui sont, franchement, faudrait les lire, mais le temps nous prend trop de temps. Et quand on part, moi, j'ai l'impression que je l'arrête. J'ai l'impression que j'arrête ce temps, ou qu'est-ce que tu dois faire, tel horaire, tout s'enchaîne dans ta vie de façon très organisée. Et au moment où je pars, j'ai l'impression que ce temps, il n'est plus réglé. Voilà.
Je suis content d'entendre un jeune de 25 ans parler comme Erwan, je le disais. Je suis content de t'entendre parler comme ça aussi, Daniel. Ouais, c'est un registre que je connais moins.
Moi, j'aime bien.
Mais c'est très agréable. Merci à Erwan d'avoir été avec nous, Anne-Sophie.
Il y a toute une question de connexion à la nature. C'est qu'en fait, quand on vit en ville, on est dans le béton tout le temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin, et même après, en termes de santé mentale, c'est montré que ça fait du bien d'être au vert ou à la mer.
Anne-Sophie, on n'aurait pas les chiffres qu'on a, dont tu as parlé à Alfred tout à l'heure, s'il n'y avait que les gens de la ville qui partaient. On a quand même énormément de gens qui partent, et même qui habitent dans un cadre extrêmement agréable au quotidien.
Alors après, il y a un autre élément aussi, c'est la visite à la famille. Et d'autant plus parce que ces jours fériés, c'est pareil sur toute la France. Et il y a plein de gens qui sont loin de leur famille d'origine et qui profitent de 4-5 jours pour voir les grands-parents, etc.
On va interroger justement sur ce sujet Sébastien Hoff qui nous rejoint. Bonjour Sébastien Hoff.
Oui, bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes psychologue. Psychologue spécialisé dans le monde du travail, du réseau de consultation souffrance en travail.
Oui.
Est-ce qu'il y a un rapport direct, Sébastien Hoff, entre ce besoin d'un grand nombre de Français de partir à tout prix? Les vacances, c'est sacré. On est prêt à sacrifier d'autres postes de dépenses, mais il faut qu'on parte. Est-ce que c'est un rapport direct avec le monde du travail à l'heure actuelle?
En fait, du coup, vous évoquez la question du bonheur tout à l'heure. Enfin, j'entends qu'il y a un lien entre être heureux et puis le fait de partir. Je crois qu'effectivement, le fait de partir, c'est aussi finalement s'aérer, s'oxygéner. Certains l'ont dit, c'est un peu changer de rythme. c'est prendre le temps, puisqu'on disait qu'on n'avait plus le temps de faire quoi que ce soit, le rythme s'enchaîne dans le quotidien. Mmh. Et avant tout, c'est peut-être ce changement de rythme, ce changement de quotidien, de rituel qu'on peut avoir au quotidien, qui fait que on a le sentiment de pouvoir finalement enfin profiter de son temps et profiter
maîtriser un peu le temps, en tout cas le maîtriser un peu plus.
Oui, puis avoir du temps pour soi, avoir du temps peut-être pour la famille, comme l'a expliqué la collègue. L'idée, c'est effectivement de se dire, voilà, j'ai du temps, je vais en profiter un maximum, parce que le reste du temps en semaine, je suis contraint par peut-être le travail, par les horaires, par les transports, d'autant plus lorsqu'on est à Paris ou en région parisienne, et que le fait de pouvoir partir, c'est le fait de changer de rythme, changer d'air, changer d'oxygène, et du coup, ça peut faire un bien fou. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir finalement un petit brin d'herbe, jardin, etc., ils peuvent très bien changer de rythme tout en restant chez eux.
Ouais.
Effectivement, quand on est en appartement 30 mètres carrés,
c'est
à sûr, Paris,
c'est moins évident.
C'est un peu plus compliqué, et surtout si le lieu dans lequel on vit est un lieu également de travail, ce qu'évoquait un peu votre personne tout à l'heure. Donc partir, c'est plutôt synonyme de s'oxygéner, et c'est plutôt ça qui fait aspect plutôt bonheur, à mon sens.
Sébastien Hoff, est-ce que il y a un autre aspect, celui de la pression sociale? On en parlait ce matin entre nous, en préparant cette émission. Voilà, il y a un très long week-end qui va commencer, cinq jours de week-end. Et là, la question dans toutes les entre collègues, dans les familles, c'est alors toi tu pars pour le seul week-end? Ben non, moi je pars pas. Tu pars pas. Enfin, il y a une certaine pression sur les vacances. Est-ce que tu pars cet été? On se sent un peu. Pas obligé de partir, mais un peu décontenancé quand on part pas, non?
Oui, effectivement, à partir du moment où on part plus, c'est comme si on n'avait pas l'argent nécessaire. Donc c'est aussi se mettre dans une posture indélicate vis-à-vis des autres. Et donc c'est comme si les autres qui étaient en capacité de partir, à la fois financière, peut-être en termes de timing, peut-être parce qu'ils ont des familles qui se trouvent dans des endroits un peu plus sympas et qu'ils peuvent permettre de décrire un peu ce lieu-là, plutôt que de dire qu'ils vont dans la famille, permettait effectivement d'accentuer un peu l'aspect de sphère sociale, comme vous évoquiez. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui peuvent se permettre d'aller dans d'autres pays plus régulièrement, et puis il y a ceux qui font avec les moyens qu'ils ont, et des fois ça irait, c'est aussi partir pas très loin de chez soi, c'est trouver des petits coins finalement à une ou deux heures de chez soi, et ça peut être largement suffisant. Pour le coup, quand on est dans un environnement de travail et social où la question se pose, en fait c'est comment on va justifier du temps que l'on a pour faire des choses qui nous correspondent, des choses qui nous conviennent, des choses qui ont du sens pour nous. Et l'idée, c'est plutôt de valoriser ça. Alors, si c'est partir dans un lieu, etc., ben, on va dire ça. Mais si c'est pas le cas, alors on pourrait expliquer à quel point nous utilisons notre temps pour faire un truc qui nous convient, un truc qui nous fait plaisir, un truc qui nous fait du bien, en fait.
Merci beaucoup, Sébastien Hoff, d'avoir été avec nous. Sébastien Hoff, psychologue du travail, membre du réseau de consultation Souffrance au travail. On repart au 32-16. On va rejoindre Dominique, qui est avec nous. Bonjour, Dominique.
Oui, Thomas, rebonjour.
Bonjour. Alors, Thomas, c'est le coordinateur du standard. Moi, c'est Rémi. Mais avant, c'était Thomas. Là, c'est Rémi. Vous êtes en direct sur RMC et RMC Story, Dominique.
D'accord.
Voilà. Bienvenue. Dominique, en vacances toute l'année, hein, aussi. Hein. Ça m'énerve. C'est des gens qui nous appellent de Beaufort en Savoie, Dominique, qui nous appellent depuis Fréjus dans le Var. La chance.
Une grande chance, oui.
Dominique, est-ce que pour vous, c'est une priorité que de partir?
Alors partir quelques jours, c'est alors déjà il faut redéfinir ce qu'est le bonheur.
Ça va être 3 heures.
Ce qu'est le plaisir. Et donc ça prendrait du temps. Et, oui. Et effectivement, moi je pense que quand on a une vie professionnelle intense, partir 3-4 jours, c'est s'aérer les neurones. Néanmoins, c'est pas décompressé. Par contre, ça crée du plaisir, ça crée une ambiance et ça sort du quotidien.
Et vous faites comment alors pour décompresser, vous?
Mais écoutez, alors moi j'ai, comme je vous l'ai dit, enfin votre collègue, j'ai 61 ans, j'ai la chance de plus avoir besoin de travailler. Je suis dans une grande villa avec un grand terrain avec une belle piscine.
Ah bah oui, alors et plus besoin de partir.
3 kilomètres de la mer. J'ai le soleil.
C'est vous qui recevez des gens qui partent chez vous.
Et justement, c'est nos anciens amis, nos amis, qui sont encore parisiens, qui passent venir leur week-end ici, ou leurs 4 jours ici, ou leurs vacances.
Donc vous avez l'air très sympathique, Dominique. Je suis sûr qu'on pourrait devenir amis.
On reçoit beaucoup.
Oui. Vous devez avoir beaucoup d'amis.
Mais vous, vous avez besoin de travailler, vous me disiez donc. Mais est-ce que malgré tout, vous avez un rythme dans l'année, même si vous ne travaillez pas? Est-ce que parfois, vous avez besoin de rompre ce rythme vous-même?
Oui, mais par contre, comme on a la chance, et avec mon épouse et notre fille, on aime le soleil, et le soleil, on l'a. Logiquement. Et surtout aujourd'hui d'ailleurs.
Donc dans ce temps, ils vont à Lille sous la pluie.
Un week-end de 3-4 jours, ça, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on part une semaine à New York ou deux semaines au Vert. Voilà. Ah oui. Comme je dis à ma femme, moi, faire 8 heures d'avion pour retrouver ce que j'ai ici, je ne vois pas l'intérêt. Quoi. Et donc 3-4 jours. Sauf aller visiter la région provençale qui est magnifique. Bon, on se change des idées, on s'aère un peu, mais bon, ça change pas notre vie, quoi.
Merci Dominique d'avoir été avec nous depuis Fréjus dans le Var. Dominique qui nous appelait au 32-16. On vous a posé la question, week-end de l'ascension, faut-il partir à tout prix pour être heureux? Allez, on va retomber dans la réalité, j'allais dire.
Exactement, parce que vous répondez non à 80%, oui à 20%. Je finis avec un message de Jérôme qui nous dit, on n'est pas obligé de partir pour être heureux. Recevoir des gens pour un barbecue, ça fait déjà beaucoup de bien.
Exactement, tiens, ça tombe très bien qu'on parle de cuisine. Pourquoi je dis ça? Parce que j'allais enchaîner là-dessus. Dans un instant, c'est RMC Conso. Quand on est en vacances, on peut prendre le temps aussi, c'est un plaisir, je sais, pour toi, notamment Thierry, de prendre le temps de cuisiner. Absolument. On n'a pas forcément le temps le reste de l'année. Bah justement, on va s'intéresser, tiens, aux légumes frais, aux légumes surgelés ou aux légumes en conserve. Quel est le meilleur qualité-prix? Je pense qu'il peut y avoir des surprises. C'est dans un instant, dans RMC Conso, sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, à midi 15h sur RMC, RMC Story. Charlotte Méritant nous a rejoint, elle et ses haricots.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Ben oui, parce que tu es arrivée avec des haricots, Charlotte. Aujourd'hui, on compare les légumes sous toutes leurs formes, frais, surgelés, en conserve. Et on va voir quel est le meilleur rapport qualité-prix. D'abord, comme me l'ont appris mes parents, bonjour.
Bonjour Rémi.
J'avais oublié. Parlons haricots.
Oui, je vous propose un petit match, une battle des haricots
alors,
verts.
Enfin, j'adore ça. Alors, je suis taquet là. Ah, sur la chronique.
Il y a des infos qu'on découvre comme ça au fur et à mesure.
Oui. Ah, mais Conso, là,
Daniel
la
Riolo,
je suis à fond
les ballons. Ça va peser sur les réseaux sociaux, ça.
Ah là, moi.
Fan de haricots verts.
Daniel Riolo, de quoi?
Charlotte, je suis pressé.
Je suis fan de haricots
verts. Je suis pressé, je veux savoir. Là.
Alors, lesquels sont meilleurs entre les surgelés, les conserves ou les frais? Attention, il y a un gros suspense sur qui va gagner.
Bon, les frais, non?
Non. Les frais ne gagnent pas. Alors,
non,
effet, moi je savais ça.
Bah, en fait, ceux-là, ils viennent d'Égypte, donc ils viennent de très loin. Résultat, c'est pas tant le fait qu'ils viennent d'Égypte en soi le problème, c'est simplement.
Il faut décrire, c'est ce que tu as en barquette au supermarché, avec le cellophane par-dessus. Ouais.
Voilà,
ce qui
exactement.
Fait un peu genre, je l'ai fait à la maison hier, ça fait un peu, je trouve ça donne cet aspect.
En même temps, c'est grave,
soit du Kenya, soit enfin, de très loin.
De toute façon, les haricots, c'est pas encore la saison, c'est plutôt à partir de juillet, donc c'est pour ça qu'on trouve pas des haricots frais de France. Donc ils ont voyagé pendant longtemps, et le problème, c'est que depuis le moment où ils ont été cueillis, il s'est passé plusieurs jours, qui fait que ils ont perdu leurs nutriments. Pourquoi?
On connaît
parce
pas les normes non plus, les normes.
Non, mais mon point principal. Alors c'est vrai qu'on connaît pas. Ils sont pas bio en plus. Bah, mais le principal point que je voulais souligner, Rémi, c'est que les légumes perdent leurs nutriments au bout de 48 heures. Ce qui fait que alors là, ils ne sont pas bons parce qu'ils viennent d'Égypte, je crois. Mais quand bien même ils seraient français, si vous les aviez stockés dans votre réfrigérateur pendant une semaine, ils ne seraient plus bons nutritionnellement parlant, non plus. Ils n'auraient plus d'intérêt. En tout cas.
Je me suis fait avoir quelquefois, je les ai pris dans cette barquette parce que la façon dont c'est emballé, ça faisait un peu genre c'est frais, mais je me fais plus avoir.
Donc les légumes de saison, c'est uniquement s'ils sont les légumes frais, pardon, c'est uniquement s'ils sont de saison. Si vous les achetez le matin même pour les cuisiner le midi.
Ah d'accord. Ouais. Ok. Bon, les haricots verts surgelés donc sont meilleurs pour la santé que les haricots verts frais.
Bien sûr.
Oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est le cas. En fait, sont meilleurs parce que il se passe très peu de temps entre le moment où ils sont récoltés et le moment où ils sont surgelés. Exactement. Ça se fait en quelques heures. Donc ils sont cueillis, transportés, ensuite ils sont blanchis et le blanchiment c'est aussi un processus qui va permettre de supprimer certaines enzymes qui oxydent les légumes, donc ça permet aussi de mieux les conserver et c'est un procédé, la surgélation, qui ne détruit pas les nutriments, au contraire ça va les conserver pendant un à deux ans, donc en fait ils sont meilleurs.
Oh bah très bien. Et par rapport aux conserves, est-ce qu'il vaut mieux des haricots verts surgelés ou en conserve?
Ah, large et surgelé, hein, Charlotte, j'ai raison. Oui.
Alors, sur le plan nutritionnel, on parle strictement sur le plan nutritionnel, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils sont mis en boîte quelques heures après leur récolte. Hein, il se passe très peu de temps également. Alors, la différence, c'est sur la conservation, puisque en boîte, ils vont être ajoutés d'un liquide et ensuite chauffés à plus de 100 degrés, ce qui va détruire un petit peu les nutriments. Alors, ce qui serait bien, si vous voulez manger des haricots en boîte pour garder tous leurs nutriments, c'est de consommer le jus avec le jus de conservation. Mmh. Attention à la quantité de sel quand même, parce qu'ils rajoutent du sel, c'est un conservateur naturel, mais sinon, c'est pas mauvais.
Bon,
mais
alors, en tout cas, sinon, oui.
En boîte et surgelée, au terme de bilan énergétique, c'est mauvais.
Oui, évidemment. Alors, cela dit, les haricots surgelés que je vous ai ramenés, ils sont origine France, mais c'est vrai que le processus de surgélation consomme beaucoup d'énergie.
Charlotte, allez, on fait le bilan. Qui a gagné le match?
Le match est remporté par mes haricots verts surgelés.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce qu'en plus, ils sont moins chers que les autres.
Ah oui?
3 euros le kilo contre 5 pour les en boîte et plus de 8 euros pour les frais. Parce que aussi, sur le plan nutritionnel, ce sont eux qui vont avoir conservé le plus de vitamines. Donc oui, ce sont les surgelés les meilleurs. Après, comme disait Thierry Moreau, si jamais vous avez un petit potager et que vous pouvez cueillir vous-même vos haricots et les surgeler directement après.
C'est le bonheur.
Là, c'est l'idéal. Ouais. Mais sinon, pas de légumes garder une semaine au réfrigérateur.
Et dans les surgelés, après, il y a différentes marques et forcément différentes qualités.
Oui, après, ne surtout pas prendre ceux qui sont cuisinés avec de la crème, du sel, etc. Tous ceux qui contiennent des additifs. Les poêlées toutes faites, non. En revanche, les légumes bruts, oui. Vérifier l'origine, c'est pas toujours indiqué. Mais quand c'est origine France, c'est bien.
Merci Charlotte, merci aussi Daniel pour nous avoir fait partager ta passion. Dans un instant, les immanquables avec Alfred, on parlera de quoi notamment Alfred?
On va parler du célèbre tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet qui a été recouvert de peinture au centre Pompidou-Metz lundi.
A tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
RMC, Estelle Midi, sur RMC plutôt, RMC Story, le canal 23 de la TNT, comme tous les jours à 7h06, ce sont les immanquables avec Alfred.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et Alfred, on commence avec le coup d'éclat du jour.
Oui, lundi, le célèbre tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet a été recouvert de peinture rouge, un tag où l'on pouvait lire les mots « MeToo » inscrits dessus. Alors juste pour préciser, c'est la vitre qui protège le tableau qui a été ciblé, pas le tableau en lui-même. 4 autres œuvres ont été ciblées dans ce centre Pompidou-Metz. 2 femmes ont été interpellées. Une 3e a pris la fuite avant de revendiquer ses actions sur les réseaux sociaux. Très remonté, le maire de Metz, François Grosdidier, a vivement réagi, dénonçant, je cite, un attentat contre la culture produit par des fanatiques féministes.
Il parle même de talibans, le maire de Metz, des méthodes de talibans, de sauvages, d'attentats, de terroristes.
Bah, c'est une revendication en plus derrière, effectivement.
Anne-Sophie, est-ce que tu partages cette colère du maire de Metz?
Alors non, pour savoir ce qui se passe en Afghanistan, je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme taliban là pour ça. Et pour savoir ce que c'est que le terrorisme, il ne faut pas utiliser le terme terrorisme pour ça. Moi, je suis un peu... Enfin, franchement, j'y connais rien à l'art. Je suis un peu hermétique à l'art moderne. Donc voilà. Mais si on regarde, c'est une activité qui s'adresse au sens, aux émotions.
On ne sort pas dans la catégorie art moderne.
Non, mais l'action était revendiquée comme une action d'art. Oui. Et l'art, c'est une activité qui se revendique comme devant faire réagir les sens et les émotions. À ce titre-là, j'ai l'impression qu'elles ont réussi, puisque ça met des gens en colère, ça crée des émotions, ça laisse pas indifférent, ça crée un débat, donc voilà. Et si on se colle à la définition de l'art, elles ont réussi. Par ailleurs, heureusement, les tableaux n'ont pas été abîmés, hein, c'est sur une vitre. Donc voilà, ensuite, moi, je comprends pas forcément la démarche, mais je peux pas nier que si l'idée, c'est de susciter une réaction, ça marche.
Thierry?
Moi, j'ai le sentiment que la culture, globalement, est plutôt un... Parce que c'était, au départ, pour protester contre le patriarcat. Okay. Je pense que s'il y a un domaine où la culture est déjà pas mal en avance, plutôt en progrès sur ces thématiques-là que sont la lutte contre le patriarcat ou la promotion d'un certain féminisme, c'est bien la culture. Le cinéma, les expos, les choses comme ça. Premier point. Deuxième point, tu dis ça n'abîme pas les œuvres. Je suis d'accord avec toi, sauf que dans les précédentes actions,
récemment,
ça
ils
a
l'ont
abîmé
fait sur des
les
vrais
cadres.
Tableaux.
Et les cadres, quelquefois, sont pas aussi précieux que la toile, mais en tout cas, ils sont quelque
Ça a même été fait sur des vraies toiles, hein, maintenant. Oui, ils en sont là. Les extrémistes vont.
Il y a aussi les cadres qui sont quelquefois très abîmés, notamment au musée d'Orsay. Il y a des cadres qui ça va coûter beaucoup d'argent de les restaurer. Et je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Et dernier point, si c'est une performance artistique, j'avoue, j'ai du mal à la comprendre. Bah,
là, c'est une artiste, non, qui a fait, qui le revendique comme une performance, oui, si j'ai bien compris. C'est pas du tout un militant, c'est une artiste.
Oui, mais pour dénoncer le patriarcat.
Connue pour ça. Connue pour ses actions.
Moi, je suis pour des sanctions lourdes, parce que pour ceux qui font ça, parce que ça, c'est une dégradation, et surtout le message, de toute façon, il est. J'entends que ça suscite une réaction. Le problème, c'est que ça suscite une réaction qui est négative. Donc, si c'est pour défendre une cause, en fait, je trouve que la cause en prend plein la gueule. C'est négatif pour la cause. C'est négatif pour la cause. En l'occurrence, celle-là, c'était MeToo. Parfois, ce sont des écolos. Parfois, toute une sorte de cause maintenant viennent à être défendues dans les musées. Bon, ok, vecteur de communication, le musée, l'œuvre d'art pour dénoncer. En gros, ça va choquer le public. Mais le problème, c'est que, ouais, certainement que ça choque le public. Mais la réaction que ça procure, c'est que on en veut aux gens qui font ça. Et on en veut indirectement à la cause. Ce qui fait que la cause, plutôt que d'être grandie, ben, elle devient toute petite et on dit, ah, ils nous font chier avec leur cause. Alors que ça devrait pas être le but. Ça devrait être le contraire. Ou alors, ce sont uniquement des extrémistes, ce que je crois. Ce sont des gens qui, de toute façon, ne veulent pas ouvrir le débat, mais te soumettre à leurs opinions par la violence de leur acte. Ce sont souvent des gens qui sont proches de mouvements révolutionnaires, qui, de toute façon, ne veulent pas le dialogue, mais veulent l'écrasement de l'autre. Souvent, ces activistes-là sont comme ça. Et donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'acte positif dans ce qu'ils font. Ils ne veulent pas t'éveiller à la cause, mais la cause, ils veulent juste la claquer à la gueule. Et le résultat, c'est que la réaction que ça engendre, c'est un rejet de cette cause. Donc je trouve que c'est négatif et je crois qu'en plus, ils n'en ont rien à cirer que ce soit négatif.
Le départ du jour, Alphonse.
Oui, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, va être remplacé après les Jeux Olympiques, annonce faite par le gouvernement ce midi. Son mandat arrivait à échéance lundi. Le gouvernement a en quelque sorte décidé de couper la poire en deux. Jean-Pierre Farandou aurait pu être reconduit jusqu'à l'été 2025 où il aurait atteint la limite d'âge, à savoir 68 ans. Mais le gouvernement n'ira pas plus loin que la fin des Jeux. Une décision qui interroge parce que Jean-Pierre Farandou a mené ces dernières semaines des négociations très favorables aux cheminots, avec les cheminots, pour éviter des grèves pendant les Jeux, des négociations qui ont vraisemblablement agacé le gouvernement.
On n'a pas voulu brusquer les cheminots avant les JO. Par contre, on n'est pas très content de ce qu'ils se sont vus accorder par leur PDG. Thierry, est-ce que tu crois que, clairement, là, c'est le PDG de la SNCF paye sa politique sociale ?
Je suis pas dans le secret de la décision gouvernementale, mais effectivement, ça sent un petit peu le retour de bâton. Après, moi, je suis toujours fasciné par ces gens qui, au-delà de 65 ans, s'accrochent à leur poste plutôt que de partir à prendre une retraite bien méritée. Pourquoi s'accrocher jusqu'à 68 ans? Ça veut dire que le poste est très intéressant et particulièrement gratifiant. J'ai envie de dire place aux jeunes. 65 ans, c'est bien déjà. Voilà, il a fait plein de choses. Enfin,
surtout avant de partir, il a régalé tout le monde.
En plus, donc voilà, je comprends pas cette volonté de s'accrocher à tout prix jusqu'à 68 ans à un poste où d'autres peuvent montrer leur talent.
Anne-Sophie.
Alors moi je rejoins assez le fait qu'à un moment il faut savoir s'arrêter de travailler. On s'est assez battu pour la retraite plus tôt. Par ailleurs,
on a l'impression qu'il paye un petit peu les cadeaux qu'il a fait.
Oui, mais alors c'est vrai que je suis pas dans le secret de la décision, mais il y aurait eu des grèves et un gros mouvement au moment des JO. Il aurait sans doute payé quelque chose aussi. Donc je pense que de toute façon c'était assez compliqué.
Moi, je pense qu'il est sanctionné, puisque de toute façon, c'est ce qu'on a entendu de la bouche du Premier ministre et d'autres ministres, comme quoi on lui en voulait d'avoir absolument tout cédé. Et d'ailleurs, dans l'opinion, l'idée qui a été répandue et qu'on a le plus entendue, c'est celle comme quoi ce PDG a cédé à la pression des cheminots et qu'il leur a fait beaucoup trop de cadeaux. Le gouvernement étant sensible à ce qui se dit dans l'opinion, résultat, c'est une sanction. Au revoir, monsieur.
Après, ça dépend de l'opinion, c'est comme tout.
Non, en général, ce qui s'est dit quand même autour de ça, c'est qu'il a fait beaucoup trop de cadeaux.
Alfred, la découverte du jour, est-ce vraiment une découverte ?
Alors, les prisons françaises sont de vraies passoires où la drogue circule librement. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui nous l'apprend dans une enquête. Un quart des détenus fument par exemple du cannabis tous les jours. La consommation d'alcool est aussi quotidienne pour 16% d'entre eux. Des produits interdits qui sont souvent livrés par des visiteurs au parloir, parfois aussi livrés par drone. Plus rarement, c'est même le personnel des établissements pénitentiaires comme les surveillants ou les cuisiniers qui font rentrer ces produits dans les cellules.
Daniel, est-ce que nos prisons sont devenues des zones de non-droit ?
Bah, de toute façon, ils sont tellement débordés, tellement entassés qu'au bout d'un moment, t'achètes la paix, quoi. Tu laisses faire parce que soit on n'est plus capable de surveiller, on n'est plus capable de gérer le problème. Donc tu achètes. Tu achètes la paix, dis bon, allez-y, fumez, faites ce que vous voulez. De toute façon, on n'est plus en mesure de contrôler quoi que ce soit. Voilà comment je le vois, moi, le truc.
Et on continue comme ça ?
Et tu vas continuer comment ?
Hier, il y a eu des propositions faites par les LR, justement pour la construction de nouvelles places de prison. 10 000, 100 000, jusqu'à 100 000.
On l'a répété 150 fois dans cette émission. À chaque fois, on dit on peut pas le faire. Eh ben, si tu peux pas le faire, alors les prisons vont encore plus être des zones de non-droit. Voilà.
Anne-Sophie.
Bah oui, clairement, on a une surpopulation carcérale qui est gravissime et régulièrement dénoncée. Il y a un problème aussi d'activité des détenus. Et donc, bah, vaut mieux qu'ils fument un peu et qu'ils soient calmes. Voilà. Mais c'est catastrophique parce qu'en fait, en termes de réinsertion, si on a des personnes qui sortent avec encore plus de dépendance, c'est compliqué.
Voire ensuite, même qui découvrent la dépendance en prison. Hein.
Bien sûr, voilà, et ensuite, sur la question de l'emprisonnement en France, on va quand même se poser des questions. En Europe, on est à contre-courant d'enfermer de plus en plus. Donc, à un moment, il faut aussi se poser la question de notre politique par rapport à la délinquance. Et est-ce que vraiment on est en train de se mettre en sécurité à enfermer des gens dans des prisons surpeuples où ils auront accès à des drogues?
C'est sûr que dans le contexte actuel avec tout ce qui se passe, si en plus on dit qu'on va moins enfermé vu l'application des peines, alors là c'est sûr que ça va faire fureur.
Je suis en total désaccord. Pour le coup, je pense qu'il faut effectivement plutôt favoriser la prison pour des périodes courtes et que toutes les peines soient
réellement appliquées.
Le problème, c'est qu'on a un parc pénitentiaire qui est dans un état lamentable, qui sont une passoire, où effectivement on achète la paix sociale, comme l'a dit Daniel, avec les joints et avec les téléphones, parce que c'est aussi le problème des téléphones portables en prison, et qu'aujourd'hui on gère plus une situation pour la
explosion, tout simplement.
Et c'est ça le problème. Donc construire des prisons, faire effectuer des peines courtes qui font réfléchir plutôt que de dispenser des peines en dessous de un an, je pense que... Et on le fait parce qu'on n'est pas capable de faire autrement, puisque notre parc pénitentiaire n'est pas à la hauteur.
Et parce qu'on n'investit pas non plus dans toutes les alternatives à la détention. C'est une vraie difficulté. Et que par ailleurs, tous les groupes politiques qui prônent plus de sévérité...
Puisque toutes les peines de moins d'un an ne se font pas.
Et tous les groupes politiques qui prônent plus de sévérité veulent aussi des peines planchées, ce qui bloque également la condamnation.
Le fait de faire des peines courtes n'est pas un problème de sévérité. C'est un problème de faire en sorte que quelqu'un qui fait une petite infraction à une petite peine, la purge est réfléchie, plutôt que d'attendre qu'il risque plus d'un an de prison pour vraiment, vraiment faire de la prison.
Alors c'est un très long débat qu'on lancerait, mais pour moi la question c'est l'efficacité. Si une peine courte, ça veut dire que la personne ensuite revient dans le droit chemin, pourquoi pas ?
Les pays du Nord l'expérimentent avec beaucoup de succès.
Oui, mais la réalité c'est qu'il y a aussi beaucoup de cas où il y a besoin d'un accompagnement éducatif et où il n'y a pas les moyens et beaucoup plus qu'une semaine de prison.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'interrogation du jour.
Oui, que faire des petites maternités en France ? C'est la question que pose la Cour des comptes dans un rapport publié hier. Dans un contexte où la natalité baisse dans notre pays, le maintien des maternités avec moins de 300 accouchements par an est sur la sellette. Pour la Cour des comptes, ces petites maternités coûtent cher et posent un problème de sécurité, puisque les sages considèrent qu'avec aussi peu de naissances dans ces structures, le personnel soignant perd en fait progressivement ses compétences en ne répétant pas assez les gestes, mettant ainsi en danger la santé des nourrissons et des mamans.
Thierry Moreau, ce n'est pas très populaire que de dire ça, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux fermer les petites maternités en France ?
Alors le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins il y a d'accouchements dans une petite maternité, moins on va avoir tendance à y aller, et donc plus il y a un risque élevé d'accident ou de problème, et donc plus on a tendance à les fermer. La question, c'est de trouver le bon curseur pour que quelqu'un qui a besoin d'accoucher, une femme qui a besoin d'accoucher, ait la possibilité de le faire à une distance raisonnable, et c'est dans ce raisonnable que réside toute la problématique, en sécurité, pas trop loin de chez elle, et dans de bonnes conditions. Ça, c'est un problème qui est pour le coup qui relève de la politique sanitaire. On a peut-être pousser le curseur un peu trop loin dans un sens, en concentrant dans d'énormes structures, parfois loin des gens, et au détriment des toutes petites structures qui, pour le coup, étaient moins safe.
Il n'en reste pas moins que moi, j'entends, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'entends ce que dit la Cour des comptes, effectivement. Oui. Ces maternités-là, est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'il faut les laisser ouvertes?
Non, mais elles, te les cas par cas.
Elles sont désertées.
Pas forcément.
Elle a parlé de cas par cas, la Cour des comptes. Ouais, je trouve que c'est une bonne réflexion.
Voilà. Bah oui. Anne-Sophie.
Bah, moi, je suis un peu inquiète parce que aujourd'hui, il y a quand même un gros sujet sur la désertification médicale et donc fermer des centres de soins éparpillés sur le territoire, c'est problématique parce qu'effectivement, on a des grosses concentrations.
C'est problématique aussi.
Alors, et bah, c'est justement d'où l'idée du cas par cas et donc de regarder ce qu'on peut faire. Ouais. Moi, je me mets à la place des femmes enceintes. C'est quand même extrêmement compliqué de se dire qu'on est très loin de la maternité, que ça commence à être le stress à partir du 8e mois parce qu'on sait que le trajet, il est trop long et même pour des visites de contrôle, etc. Donc, en fait, il faut absolument enfin, je sens le truc où on va fermer des petites maternités et ensuite ça va créer des drames.
Là où le cas par cas est compliqué, c'est que souvent tu as des pressions politiques parce que l'élu local, le député local va évidemment interférer auprès du ministère pour ne pas fermer la maternité qu'il a dans sa circonscription, etc. Donc il y a aussi des enjeux politiques lourds et donc il faut faire attention à cet équilibre-là aussi.
Allez, on termine avec la distinction du jour.
Elle est à mettre au crédit du basketteur français Victor Wembanyama qui vient d'être élu rookie de l'année en NBA, le championnat de basket américain. Un prix qui récompense le meilleur joueur débutant. Wemby, comme il est surnommé, a joué sa première saison en NBA dans l'équipe des San Antonio Spurs et il a crevé l'écran multipliant les points, les contres. Bref, il était partout sur le terrain, de bon augure avant les Jeux de Paris où les Bleus de basket sont candidats à une médaille olympique.
J'ai regardé Sophie qui m'a fait de grands yeux, j'ai regardé Thierry qui m'a fait de grands yeux, ce ne sont pas visiblement des spécialistes de basket.
Daniel, apparemment c'est un génie.
Tu t'intéresses au basket ?
Ouais, mais de toute façon, effectivement, ce qu'il a fait cette année, c'est assez extraordinaire. C'est phénomène, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de doutes.
Beaucoup de pression.
Alors, il y avait
beaucoup d'attentes.
Exactement. J'ai dit une bêtise. Il y avait une attente démesurée l'été dernier, et ce qu'on entendait dans la bouche des spécialistes, c'est l'optimisme. Ok, mais restez calme. La NBA, c'est un autre monde. Le basket américain, c'est un autre monde.
On nous disait que c'était un extraterrestre qui allait tout pulvériser.
Que ça va. Il faut pas aller trop vite. Il faut lui laisser le temps de grandir, non pas par la taille, mais par le corps.
Et il est au rendez-vous.
De prendre du muscle, de se faire au contact qu'il y a dans ce championnat. Bref, il allait changer de monde et il fallait pas non plus trop s'emballer, surtout sur la première année. Aussi, Et résultat, il termine la première année et tout le monde est emballé. Donc ça veut dire qu'il est à la hauteur des espérances placées en lui l'été dernier quand il est parti. Et maintenant, parce que c'est aussi ça qui se passe autour des surdoués, c'est ce qui a été évoqué, l'attente autour des JO maintenant, parce qu'on s'attend à ce qu'il emmène derrière lui toute l'équipe de France pour décrocher une belle médaille au moment des JO en France. Donc il apprend à être constamment au cœur de l'attente. Voilà, c'est le lot des génies, c'est d'être tout le temps, on veut plus, on veut plus, on veut plus, tu dois nous faire gagner, c'est toi la star, parce que ça va devenir une des stars du sport français, donc on attend une médaille autour de lui et autour des Bleus du basket.
Et on l'espère, et ce sera bien sûr à suivre sur RMC et sur RMC Story tout au long de cet été. Allez, Vincent Cerussi, un autre champion nous rejoint, un autre champion.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Salut.
Maintenant, Vincent, j'ai trop.
Mais tu vois, c'est jamais bien réglé.
Oui.
Allez, aujourd'hui, Vincent, tu ne comprends pas pourquoi les féministes ont encore tagué un tableau à Metz.
Oui, une féministe. Vous venez d'en parler là. A tagué un MeToo sur le tableau de Gustave Courbet, l'origine du monde, au centre Pompidou à Metz. Et franchement, pour une fois qu'il y a un truc à faire à Metz, putain, gâchez pas l'ambiance, quoi. Surtout quand tu vois le tableau qui représente le vagin d'une femme. Quitte à taguer un truc, moi j'aurais tagué le numéro d'une esthéticienne, hein, à titre personnel, quand tu vois un peu le tableau. Bon, c'est quand même étonnant, hein, ce geste. Une féministe qui veut donner plus de visibilité aux femmes, et elle tague un tableau où il y a une meuf, bah, et du coup, on voit plus rien, quoi. C'est un peu particulier. Ils ont été obligés de rebaptiser le tableau. Ça s'appelle plus l'origine du monde, mais l'origine de la connerie maintenant.
Bon, tu comprends pourquoi cette femme a mené cette action?
Bah oui, tout ça, c'est à cause des cours d'art plastique.
C'est-à-dire
que tu fais ça en cinquième, t'as 20, voilà. Avec la prof qui dit mais quel génie exceptionnel, et le problème c'est que la nana l'a cru, quoi. Après, la femme qui fait ça est connue des services de police, elle s'appelle Déborah de Roberti. C'est en 2017, elle avait montré son sexe devant la Joconde déjà. Performance particulièrement remarquée parce que c'est la seule fois où la Joconde a détourné le regard. Mais elle a pas fait que ça, puisque Déborah de Roberti s'est également volé une broderie à Metz où était écrit, excusez-moi, je cite, je pense donc je suce. mais pourquoi tu l'as volée, quoi? Il faut que toutes les meufs la voient, cette broderie. Non, mais c'est quand même très important.
Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé du mauvais comportement des conducteurs sur la route.
Oui, de plus en plus de conducteurs sont nerveux au volant. Selon une étude, 67% des automobilistes insultent les autres et 100% d'entre eux insultent Anne Hidalgo également. Sauf Daniel, qui insulte Neymar, lui, comme ça, directement. Voilà, on ne sait pas pourquoi.
Non, c'est fini.
T'es sur le périph', ouais, tu continues encore. Moi, je t'ai vu, t'étais sur le périph' tranquillement et d'un coup, je vois Daniel dans sa voiture seul.
Neymar, c'est un guignol. Ce sont tous des guignols.
Hey, ça tape un peu.
C'est,
hein. C'est vieux, mais c'est encore d'actualité. C'est vrai que les gens s'embrouillent tellement que pour les JO, ils ont décidé de déplacer l'épreuve de boxe directement sur le périph' à l'heure de pointe. Ils disent aussi que 32% des conducteurs collent la personne d'en face. Bon, ça reste toujours moins que le métro où 100% des gens frottent la personne d'en face. Hein.
Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus tendu au volant. Ça, c'est une certitude.
Tendu. Vous êtes juste tendu, Rémi. Enfin, je veux dire, tu roules en voiture, t'as un cycliste qui arrive à contresens, un piéton qui traverse au vert, une trottinette qui te dépasse par la droite, une voiture qui te fait une queue de poisson, un scooter qui colle ton rétro, et pour peu que t'aies une femme, que t'aies ta femme à côté de toi qui te parle, t'es pas tendu, je veux dire, tu pètes un câble, excusez-moi. Alors bon, sans surprise, c'est Paris et Marseille, hein, qui arrivent en tête dans le classement de ceux qui s'insultent le plus au volant. Bon, la seule différence, c'est qu'à Marseille, tu peux te faire insulter au volant de ta voiture, évidemment. Moi, à Marseille, il y a un automobiliste qui m'a gentiment laissé passer et il m'a dit,
va niquer ta mère, le connard t'es mort.
Voilà, on peut pas critiquer les Marseillais, c'est la politesse locale, c'est tout.
Merci Vincent. Tout de suite, c'est un autre Vincent qui nous rejoint. Vincent Moscato pour le super Moscato Show sur RMC. Salut Vincent.
Ah, monsieur, complètement barré, comment il va?
Ça va bien, et toi-même?
En forme, quoi, monsieur, dame?
Viens pas être à Marseille, vous?
Bah ouais.
Demain.
Ah, c'est demain.
Ah, c'est demain. Bah oui, demain, c'est demain. Elle arrive demain.
L'arrivée du bateau.
L'arrivée du bateau. Et celle sera là?
Ah ben j'espère. J'espère que.
Ah oui, c'est, elle s'y connaît.
Ah oui, bien entendu.
En marin.
Ouais. En câble. Luis Enrique, vous a-t-il convaincu, comme le dit? Comme le dit quand même Daniel. Daniel, toujours, ce type m'a convaincu.
Absolument.
L'Espagnol, grande bagnole, m'a convaincu.
C'est vrai.
Tu dis tout le temps, ce type, ça a sauvé le PSG. Le PSG peut gagner un titre avec ce gars.
Je vois que tu suis bien l'affaire.
Je suis l'affaire. Le PSG est-il plus fort qu'avant?
Oh là!
Monsieur Moreau,
bonne question.
Oui, non, mais là, je voudrais une réponse. La bonne question, ça ne suffit pas, je voudrais une réponse.
Je ne sais pas, je ne suis pas compétent.
Ah, non, mais vous,
je laisse ça aux spécialistes comme vous.
Oui, on fout. Lyon, l'avenir est-il rose?
Ils ont gagné
4-3.
C'est vrai.
En Montana. C'est extraordinaire.
La saison.
Ils sont régalés. On les voyait déjà en deuxième division.
Ah bah oui.
Puis alors Wembanyama,
on en parle à l'instant.
Dingue. Ouais. Première année, les rookies, ça s'est jamais vu.
Ouais.
Rôle de mec, hein. Rôle de mec.
Ah, puis juste quel âge il a
42.
Non,
très jeune. 42,
la vingtaine.
C'est le plus vieux.
On en parle à l'instant, la pression.
C'est le plus vieux rookie.
Il a 15 ans devant lui de carrière.
15 ans.
Et là, lui, c'est un peu comme toi.
On pense que c'est.
Allez, j'ai 15 derrière.
On pense que ça va être le premier mec en salaire à dépasser 1 milliard. En salaire, pas en pub, parce qu'en pub, oui, salaire à part.
Il y avait Daniel aussi, non?
Daniel.
Mais dans le programme, on a tout dit sur le tournoi?
Non. On reviendra sur le tournoi. Peut-on gagner si Dupont a fait du rugby à 15, aurait-on gagné?
Ça, c'est une très bonne question. Merci Vincent, super Moscato Show.
Est-ce qu'on aurait gagné le tournoi?
C'est tout de suite sur RMC. Et nous, on se retrouve demain sur RMC Story dans Estelle Midi. À demain.